Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
Fou et folle d'histoire pour donner la parole à celles, à ceux qui ne sont pas historiens, pas historiennes, mais qui portent une histoire, qui portent même des histoires. Eva Doumbia est autrice, metteuse en scène. C'est la Côte d'Ivoire qui rencontre la Côte d'Albâtre. C'est le Mali qui rencontre la Normandie, même quand les Anglais débarquent.
Contrairement à ce que l'on pourrait croire, nous ne sommes pas en Angleterre, mais à Gonfreville-l'Orcher, près du Havre, où dernièrement, pendant 15 jours, 27 écoliers britanniques et leurs 5 professeurs venus de Southampton ont partagé la vie familiale et scolaire des élèves du CES Gustave Courbet, avant que 27 écoliers français ne partent à leur tour, avec eux, pour l'Angleterre, vivre la même expérience.
Here we go, up to four. One, two, three, four.
Bonjour Eva Doumbia.
Bonjour.
Vous êtes passée, vous, par le collège Gustave Courbet?
Évidemment, mais moi, je n'étais pas en bilingue, j'étais en A. En fait, ceux qui partaient en Angleterre, c'était ceux qui étaient en bilingue anglais. Moi, j'étais en allemand première langue.
Allemand première langue. Nous étions en 1974 pour l'archi, donc vous étiez trop petite pour être au collège à ce moment-là. Gonfreville-l'Orcher, c'est quoi ça? C'est une grande ville, un petit village?
Alors, c'est une ville industrielle et qui a une histoire particulière, justement. C'est-à-dire que Gonfreville, puisqu'on parle d'histoire, avant la guerre, avant la Seconde Guerre mondiale, c'est un château, quelques fermes, une église. Et après la destruction du Havre et les bombardements, est construit sur le site de Gonfreville-l'Orcher le camp Philippe Maurice, qui est un camp de GI. Et qui, après le départ des Américains, donc des GI, recueille les familles havraises, pauvres, dont les maisons ont été détruites. Et ça devient ensuite une ville industrielle, dans la mesure où, en bord de Seine, il y a des entreprises, des usines qui s'installent, Total, SFR, etc., qui fournissent du travail à toute cette population nouvellement installée à Gonfreville-l'Orcher.
C'est là où vous avez grandi?
J'ai grandi à Gonfreville-l'Orcher. Je suis née à Harfleur, qui est à côté, puisque Gonfreville n'est pas dotée d'un hôpital. Donc, je suis née à la clinique du Petit Colmoulin à Harfleur, et j'ai grandi à Gonfreville-l'Orcher. J'en suis partie après le bac à 17 ans, mais j'y reviens très très régulièrement puisque ma famille, ma mère, ma sœur sont encore installées là-bas, une de mes sœurs.
Avec cette histoire normande qui est, comme partout, un pluriel, mais longtemps a été réduite à la Seconde Guerre mondiale et au débarquement, mais vous venez de le rappeler, hein, à Gonfreville-l'Orcher, il y a le château de l'Orcher, vous avez vécu à côté d'un château.
Oui, mais moi j'habitais dans les HLM, hein, donc alors j'habitais dans les HLM jusqu'à l'âge de 12 ans, et à partir de 12 ans, justement, comme les baraquements, en fait, les restes du camp Philippe Maurice ont été détruits pour que les gens soient mieux logés, même si il y a toute une, comment dire, il y a tout un mythe et tout un des souvenirs bien de ce camp. D'ailleurs, il y a un des comédiens qui travaille avec moi actuellement, en fait, a grandi, en fait, est né dans ce qu'on appelait les cités provisoires. Donc en fait, les maisons, les lots ont été vendus à des peu chers, et mes parents ont accéder à la propriété.
Est-ce que cette mémoire a été transmise? Est-ce qu'on vous a raconté comment c'était?
Alors moi, je fais partie, je pense, des dernières personnes de la dernière génération qui a eu des grands-parents qui racontaient la guerre, en fait. Donc oui, la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, des bombardements, de l'occupation aussi, m'a été transmise.
Oui, ça a été transmise. Discours dans la famille au moment du repas, c'est là où on le raconte. C'est au moment d'une promenade où on dit tiens, ici il y avait ça.
C'était présent tout le temps, en fait, chez mes grands-parents, tout le temps. Alors, je ne sais pas si c'était présent tout le temps, parce que moi, je l'entendais tout le temps, ou c'est ce que j'en ai fait aujourd'hui, maintenant qu'ils sont décédés. Mais c'était quand même vraiment, de toute façon, c'était présent tout le temps. C'est présent au Havre, dans les rues. Je lis actuellement le livre de Malice de Kerangal qui s'appelle Jour de ressac, et en fait je crois qu'on est à peu près de la même génération, et j'ai exactement la même chose qu'elle, c'est-à-dire que pour moi la glamourisation du Havre est quelque chose de complètement étonnant. Je trouve ça assez fabuleux, et je trouve que c'est intéressant de rappeler en fait que cette architecture qui est devenue désirable en fait quand on était petit était vraiment liée à quelque chose de terrible qui avait été la destruction.
Oui, parce qu'il faut rappeler hein, ce que ça a pu être, cette destruction du Havre.
Le Havre fut bombardé pour la première fois par l'aviation allemande le 19 mai 40. Et cette attaque fut suivie de plusieurs autres jusqu'au 13 juin, date de l'occupation de la ville. Vinrent ensuite les opérations alliées. À la date du 1er septembre 1944, veille du siège qui précéda sa libération, le Havre avait subi 123 bombardements aériens, dont les derniers avaient été, hélas, particulièrement meurtriers. Pendant le siège, du 2 au 12 septembre, toute l'agglomération fut pilonnée presque sans relâche, et sur 40 000 civils restés au Havre, 2053 périrent. Il y avait au Havre, en 1939, 19 500 immeubles d'habitation. Actuellement, 10 000 sont entièrement rasés. 2500 sont à abattre, 4500 sont plus ou moins réparables. Il reste donc seulement 2500 maisons pour loger une population qui s'élève déjà à 92 000 âmes.
Nous étions en avril 1945, c'est Pierre Voisin, le maire du Havre, qui s'exprimait à propos des bombardements qui avaient eu lieu moins d'un an auparavant. Cette histoire-là, Eva Doumbia, c'est l'histoire de votre famille, que c'est le côté maternel, hein, c'est bien cela ?
Tout à fait.
Vous connaissez cette histoire familiale, c'est quoi ? C'est un univers d'ouvriers au Havre, on pense tout de suite au port.
Ben, mon grand-père était cheminot. Alors, il y a plein de secrets, hein, comme beaucoup de familles normandes, il y a plein de secrets. Il me semble que ma grand-mère, enfin les parents de ma grand-mère tenaient un café-restaurant, quelque chose comme ça. Alors, évidemment, il y a un côté Annie Ernaux hein, du côté maternel chez moi. Ma mère est enseignante à la retraite. Mon grand-père était cheminot, c'est une famille communiste. Ma mère est toujours élue, deuxième adjointe au maire de Gonfreville-l'Orcher, donc communiste. Donc il y a cette histoire-là, en fait, effectivement. Il y a les discussions, on est dans un milieu populaire, il y a l'arrivée de mon père dans cette famille, l'arrivée d'un noir dans une famille blanche. Qui en plus est le deuxième mari de ma mère, qui est aussi le premier étant aussi un noir. Donc il y a quand même, on est une famille un peu singulière, mais en même temps c'est vrai qu'on est très dans ma famille maternelle, on est très habité par cette histoire. Mes grands-parents en fait sont nés en 22 et 23.
1922-1923.
Ils s'appelaient Michel et Micheline. Et mon grand-père était cheminot. ma grand-mère, elle travaillait. Alors ça n'existe plus cette profession. Les dames qui faisaient l'accueil chez les docteurs, en fait. Donc elle faisait l'accueil chez le docteur, et mon grand-père était cheminot. Et c'est vrai que j'ai beaucoup entendu parler de la guerre. La montée du Front National, en fait, c'était quelque chose qui les terrifiait aussi. Hein. Qui les terrifiait parce qu'ils avaient connu ça. Hein. Ils avaient connu l'occupation, ils avaient connu les nazis. Hein. Et néanmoins, j'ai quand même entendu ma grand-mère, et c'est un peu, comment dire, c'est pas très politiquement correct de dire au moins les nazis étaient polis. Les Américains, ils mangeaient des chewing-gums partout, ils étaient sales. Alors, le sous-entendu, c'était leur relation avec les filles. Et j'ai le souvenir aussi de ma grand-mère qui interdisait à mon grand-père de porter des jeans. Elle est décédée avant lui et je ne l'ai vue en jean qu'après sa mort à elle, en fait.
Ah, c'est intéressant, ça. Ça veut dire que dans cette famille, et je le dis bien, c'est le côté maternel, famille communiste, il y a bon un rapport très particulier aux États-Unis parce que communiste, mais un rapport très particulier aussi parce qu'il y a l'expérience de la Seconde Guerre mondiale avec une histoire qui est véhiculée. On sait combien ce monde syndical transmet une histoire vous l'avez eu, celle-là, c'est structurant aussi, savoir qui l'on est dans l'histoire.
Ah, tout à fait. Alors, c'est-à-dire que la question, moi, je pense que je suis politisée aujourd'hui, même si on va dire que ça a un peu vrillé, c'est-à-dire que je fais partie du mouvement décolonial français, mais je pense que la structure, l'esprit critique et la structure politique me vient de ma famille maternelle, ça c'est clair.
Oui, parce que savoir qui l'on est dans un monde, une société, c'est très fort. Et c'est vrai que le Parti communiste avait aussi cela de donner une histoire. Bien sûr, c'était pas l'histoire au sens l'histoire travaillée par les historiens et les historiennes, ou peut-être, mais revue avec une lecture particulière.
Alors mon grand-père, il était cégétiste. Ma mère était, mon grand-père était cégétiste. Je me souviens qu'ils étaient plutôt au Parti socialiste qu'au Parti communiste. Alors quand on dit le Parti socialiste, c'est pas celui d'aujourd'hui. Ils sont au Parti socialiste d'avant la gauche caviar. Ils sont au Parti socialiste du Front populaire, en fait. Et je me souviens en 81, parce que j'étais née en 81, quand François Mitterrand est élu, moi, je répétais bêtement ce que disaient mes amis à l'école en disant « Oh là là, il va y avoir une guerre ». Je m'étais fait engueuler par mon grand-père qui avait dit « Vous dites n'importe quoi. En fait, si les gens disent ça, c'est parce qu'en fait, ils ont le souvenir du Front populaire puisqu'il y a eu l'alliance de la gauche, en fait, à ce moment-là, en 81, qui a permis à Mitterrand d'accéder au pouvoir. » Donc, il y a quand même cette chose-là. Et c'était, en fait, ce qui était structurant, surtout pour mon grand-père, c'était la CGT. C'était la CGT cheminot. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai du mal, en fait, j'ai du mal, en fait, à sortir de cette imagerie-là quand je pense à la SNCF et ses prix prohibitifs et la manière dont l'entreprise est devenue. Parce que pour moi, dans mon souvenir, quand je le redis, hein, ma grand-mère s'appelait Micheline et mon grand-père était cheminot, dans mon souvenir, c'était un espace politique. Quand mon grand-père est décédé, donc ça, c'est en 2004, ses copains ont tous refusé d'entrer dans l'église. Donc c'est quand même cette culture-là, en fait, du côté maternel, en fait, qui m'est inculquée. Et finalement, c'est aussi une culture qui est presque majoritaire, parce que j'ai grandi à Gonfreville, en fait. C'est-à-dire que la culture africaine, elle est arrivée, elle était là, mais elle était finalement plutôt étouffée.
Elle était étouffée, et puis on peut se poser la question, est-ce qu'en grandissant dans les années 1970 à Gonfreville, donc juste à côté du Havre, cette culture africaine est quelque chose d'extrêmement marginal, ou est-ce que dans le lieu où vous viviez, vous avez dit c'était les HLM, elle était présente?
Non, il n'y en avait pas, justement. Alors c'est quelque chose dont je peux témoigner, c'est que moi j'ai grandi dans des HLM où il n'y avait que des Blancs. On était la seule famille noire, il y avait une autre famille qui était une famille arabe, il y avait deux autres familles arabes, et en fait, on était entouré de gens extrêmement blancs, blonds aux yeux bleus. Et ce que je peux dire, c'est que après j'ai fait mes études dans le sud de la France, donc j'ai découvert les cités, c'était très très différent. Et d'ailleurs, souvent, je pense aux accusations de délinquance, ou en fait l'assignation de la délinquance qui serait issue des cultures, on va dire, du Sud, mais c'est complètement faux. Moi, j'ai vu les mêmes choses, les voitures brûlées, les choses volées, les cambriolages, exactement les mêmes choses, et tout le monde était blond aux yeux bleus, sauf mon frère.
Avec cette interrogation que l'on peut avoir aussi sur la manière de construire sa propre identité, sa propre culture. Vous, enfant, Eva Doumbia, il n'y avait pas du tout la volonté de construire une culture qui serait plus du côté maternel que du côté paternel. Comment on arrive à concilier les deux?
Alors ça s'est fait de fait, en fait. C'est-à-dire que à la fois dans la maison, on était donc effectivement dans la maison et dans l'environnement, on était très normand, très 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 ouvrier. C'était vraiment toute cette culture-là. On mangeait blanc, comme on dit. Et de temps en temps, on partait avec mon père au foyer. On mangeait autre chose, on vivait autre chose. De temps en temps, il y avait un bateau qui arrivait d'Abidjan et on recevait la visite des amis de mon père, qui étaient marins. Pour moi, c'était vraiment des moments festifs, en fait. C'était des moments qui étaient différents. C'est des moments, en fait, qui m'ont construit tout autant, en fait. Et à l'intérieur de la famille, qui était quand même très patriarcale, on avait une éducation africaine. Mais ça, je l'ai compris plus tard. C'est-à-dire que je l'ai compris en comparant la manière dont j'avais été élevée, la manière dont mes amis étaient élevés. C'est-à-dire qu'il y avait des choses qui étaient très différentes, en fait.
Par exemple ?
Des détails, on n'avait pas le droit de se servir de la main gauche, par exemple. Et on ne nous expliquait pas pourquoi. On n'avait pas le droit de se servir de la main gauche.
À table, c'est ça?
Oui, ouais. C'est ça. On n'avait pas le droit de se servir de la main gauche. Il y avait des choses qui nous étaient racontées. Bon, alors on les prenait comme acquis. Pardon.
Mais c'est vrai que de ne pas se servir de la main gauche, Eva Doumbia, à table, ça c'est quelque chose qui est particulier. Vous sauriez l'expliquer aujourd'hui? Parce que vous nous dites que quand vous étiez enfant, bah, vous le faisiez sans savoir pourquoi. Aujourd'hui, vous donneriez l'explication?
Mais évidemment, parce qu'en fait, après il y a eu la conquête de ma partie africaine. Et la conquête de ma partie africaine m'a permis d'expliquer, de comprendre en fait l'éducation que j'avais, de mettre du... En fait, mon père était déraciné. Il était déraciné, mais en fait, il était constitué d'une culture qui était la sienne. Et en fait, il n'avait pas, il ne l'expliquait pas puisque c'était la sienne. Elle était intégrée. Donc en fait, il appliquait des principes d'un pays qui n'était pas le nôtre jusqu'à présent. Après, il y a eu toute une démarche de. Moi, j'ai pris les différentes nationalités. j'ai pris plusieurs nationalités, mais. Mais en fait, on avait une culture qui était celle de la maison, en fait. Et c'est bien plus tard que je me suis rendu compte que, bah, par exemple, s'ils nous parlaient comme ça, c'est que les pères parlaient comme ça à leurs enfants. Et en fait, ce qui m'a aussi réconcilié avec moi-même, c'est aussi de rencontrer d'autres personnes issues du monde malinqué.
Eh oui, parce que c'est ça, hein, c'est se construire en allant à la rencontre, en essayant de saisir un peu où on se trouve au milieu de toute cette histoire, avec, c'est vrai, comme marqueur culturel de première importance, la nourriture. Il y a manger blanc, bien sûr, puis il y a manger du mafé.
On va goûter un petit peu ton machin.
Allez, trêve de bavardage.
Mais, Lucien, c'est une cuisine, c'est vrai, tu seras ma mort avec...
C'est pas...
La pâte de quoi?
Le beurre d'arachide.
D'arachide avec des cacahuètes. Mais c'est drôle, maman, hein?
Voilà, là c'est légèrement fait. C'est délicatement fait.
Ah oui, c'est mort, oui.
Mais on peut le faire de manière plus grossière, c'est-à-dire en mettant plus de beurre de cacahuètes. Mais c'est alors, bien comme ça aussi.
Mais écoutez, alors, vous le faites. Si vous aimez le beurre d'arachide, vous en mettez beaucoup. Si vous aimez moins, vous en mettez moins. Nous, on l'aime bien, donc on en a mis bien. Alors, on vous dit à tous bon appétit. Et puis nous, on continue, nous sommes à table.
Vous, on a raison. Bon appétit.
Eh oui, sur France 3, Mousse Diouf, le comédien, avec Maïté, qui nous parle de mafé. Alors vous, Eva Doumbia, vous en mettez beaucoup d'arachide dans le mafé. C'est ici intéressant de voir sur une chaîne française la découverte, nous étions en 1998, du mafé.
Alors, nous on mangeait du mafé assez rarement, mais... Mon père est sans doute un des premiers à ouvrir un restaurant qui, parce que après avoir été ouvrier, comme je vous l'ai dit, il était très autoritaire et patriarcal, il détestait avoir un patron. Donc en fait, qu'est-ce qu'il a trouvé? C'était d'ouvrir à un moment donné un restaurant. Alors au départ, il s'est associé avec un ami à lui qui était tunisien et de faire du couscous. Cet ami était dealer, il s'est fait arrêter par la police et en fait mon père s'est retrouvé tout seul dans le restaurant. Et donc à partir du moment, donc il a engagé quelqu'un pour l'aider à faire le couscous et ensuite il a expérimenté les plats africains. Donc en fait il a commencé à faire du mafé et je pense que là on est au début des années 2000 en fait. Pas du tout. Non, parce qu'il a fermé au début des années 2000. On est fin des années 80 et début 90, en fait. Et donc, et je me souviens quand il disait parce que c'est quand même une ambiance particulière, hein, c'est ce monde populaire, un peu raciste, il faut le dire, qui vient manger du couscous. Et puis un jour, quand il dit, j'étais là parce que je servais dans le restaurant, moi, quand j'étais au lycée, il dit à un client, je vais vous faire goûter un plat africain, et le client prend le bras de son voisin d'à côté et fait semblant de le manger. Et alors, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai écrit un spectacle à partir du mafé. Donc en fait, le mafé, c'est aussi, ça a donné, puisqu'on parle d'histoire aussi, à des recherches historiques, puisque le mafé... À la base, j'ai découvert très tard que ce n'était pas un plat millénaire, mais c'était un plat qui était arrivé avec la colonisation.
Ce spectacle, c'est Autophagie, histoire de bananes, riz, tomates, cacahuètes, palmiers, et puis des fruits, du sucre et du chocolat. C'était en 2021, ce spectacle.
Oui, il est encore en tournée, en fait. On peut encore le voir. Oh, je pense que c'est un spectacle qui va durer longtemps.
Mais bah oui, bon, déjà parce que ce sujet-là passionne, c'est la nourriture, et ça passionne toujours. Et puis, il y a cette approche historique de ces différents aliments. Moi, j'aime beaucoup cette idée qui correspond souvent à des stéréotypes de quelque chose de millénaire. C'est une pratique culturelle, manger du mafé depuis toujours. Or, en travaillant la question, on se rend compte que ça a une historicité.
Mais même manger une tomate mozzarella, c'est pas depuis toujours du tout. Manger un ragoût de pommes de terre, c'est très récent en vérité. Donc toutes ces choses-là, c'est intéressant aussi, effectivement. Moi, la question alimentaire, elle est passionnante parce que on va dire que le début des problèmes pour une grande partie de l'humanité, c'est la découverte du sucre. Donc c'est intéressant puisque de toute façon, tout est lié. Les différentes guerres sont liées aussi à l'alimentation puisqu'on parle de la Seconde Guerre mondiale. Je pense au film Émitaille de Ousmane Sembène. Dans ce film, on voit qu'il y avait des réquisitions de riz, en plus des réquisitions de corps, en fait, pour fournir l'armée française.
Oui, ce film-là, ça se passe en 1942, à un moment très particulier. Un extrait.
Ce que c'est à mon commandement, gardez-le !
Repos.
Repos, tout le monde.
Sergent.
Mon commandant.
Tu vas traduire ce que je vais dire.
Bien, mon commandant.
Vous êtes des engagés volontaires.
N'allez pas courant, vous connaissez la ramassade de l'essai.
Vous irez d'abord à Dakar, puis en France.
N'allez pas dire à Dakar, puis dire à France.
Le maréchal Pétain, que vous voyez ici, est le chef de la France. C'est notre père à tous, à vous comme à moi.
N'allez pas dire à mon maréchal Pétain, je vais vous dire à moi. Je vais vous dire à la France. À tout le monde, bon à la fois.
Vous devez savoir que la France est en guerre contre l'Allemagne. C'est un grand honneur que vous fait la France. Je sais que vous vous comporterez comme vos pères pendant la dernière guerre de
14-18.
Quand vous reviendrez de la guerre, vous aurez de belles histoires à raconter à vos enfants et à vos petits-enfants. Je vous souhaite bonne route. Moi, votre commandant, je suis fier de vous. Que Dieu vous garde.
Un extrait du film Émitaille d'Ousmane Sembène avec ici, alors c'est un film des années 1970, 1971, quelque chose qui nous plonge au moment de la Seconde Guerre mondiale. Ça raconte quoi ce film? Parce que je sais que Eva Doumbia, vous en êtes emparée aussi de ce film.
Je m'en suis pas emparée, c'est-à-dire que je l'ai présenté. J'ai voulu qu'il soit présenté lors d'une carte blanche qui m'a été offerte par le Théâtre public de Montreuil, parce que je trouvais que ce film il faisait assez bien le lien entre le spectacle qu'on venait de présenter, c'est-à-dire Autophagie, et celui dont on savait qu'il serait présenté deux années plus tard au Théâtre public de Montreuil, qui est Chasselet. Ce que je trouve qui est intéressant, c'est que c'est un autre point de vue sur la Seconde Guerre mondiale. Point de vue qui m'a été confirmé lors des différentes résidences de création qu'on a fait en Afrique, pour chercher, puisque j'essaie de faire en sorte que ce spectacle Chasselet soit un point de vue d'Africain, en vérité, dans l'esthétique. Et ce qui était intéressant, c'est de savoir que, par exemple, moi, c'est ça qui m'intéresse, en fait, dans l'histoire, parce que j'étais pas une très bonne élève en histoire quand j'étais lycéenne, on doit le dire.
C'est pas grave.
Par contre, ce qui m'intéresse tout le temps, c'est ce qui est caché. C'est ce qui n'est pas enseigné. Pas d'abord parce que je suis extrêmement curieuse, et aussi parce que ça me permet d'expliquer le présent. Et ça me permet d'expliquer ce qui est aussi caché dans le présent. Le fait que cette légende, parce que j'arrivais pas à me dire que les tirailleurs étaient des gens qui étaient venus d'eux-mêmes se dire tiens, je vais aller libérer de l'occupant allemand la France qui elle-même m'occupe. En fait, je trouvais ça complètement absurde, et donc j'étais persuadée qu'il y avait que c'était pas tout à fait comme ça que ça s'était passé. Dans Émitaille, on voit très bien qu'il y a des réquisitions de personnes, de corps, et puis et que c'est violent. La personne qui travaille avec nous à la musique, il y a deux musiciens sur scène, il y a un musicien malien qui est quelqu'un qui vient d'une famille qui détient l'histoire. Quand on a commencé à travailler avec lui, il m'a dit, mais tu sais, chaque famille devait donner 10 garçons. Donc il y avait comme un impôt, en fait, de personnes. Et dans le film, c'est très beau parce que c'est raconté aussi du point de vue des esprits. C'est-à-dire qu'il y a un conflit entre les esprits qui refusent et puis, puisqu'il y a quelque chose... Alors aujourd'hui, on dirait du réalisme magique, mais moi, je pense que c'est beaucoup plus que Ousmane Sembène. Il vient d'Afrique, évidemment. Donc en fait, il a aussi une manière de raconter qui emprunte au conte et à la magie. Et donc, il y a les esprits qui résistent. Et en fait, on voit aussi comment les esprits désertent, en fait, ce village, puisqu'il y a des trahisons. Il y avait aussi une chose qui est notable dans le film, c'est comment, en fait, à un moment donné, il y a une scène où on arrache la photo du général, du maréchal Pétain pour mettre celle du général de Gaulle. Et on voit que pour eux, ça ne change rien. C'est-à-dire que ça ne change rien. Il y a la même réquisition que ce qui nous semble ici très important, parce que ce sont évidemment deux symboles différents. Pour eux, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on leur enlève des garçons, du riz, pour les emmener de l'autre côté.
Ouais, parce que c'est cette histoire-là hein, qui nous permet aujourd'hui, Eva Doumbia, de réfléchir à ce cheminement intellectuel, on peut le dire, qui conduit d'une création à une autre création. Chasselet, création théâtrale et création aussi, parce que le texte est publié sous forme de livre chez Actes Sud, Chasselet et autres massacres, c'est tout un cheminement. Et ce cheminement commence par une dédicace en début du livre, et vous venez d'évoquer ces mystères, et moi il y en a un que je voudrais que vous m'expliquiez, parce que vous dédicacez ce livre à la mémoire de deux personnes, Amadou Doumbia et Mamadou Koulibaly, mes pères, pères, comme le papa, pas père, P-A-I-R-S. Alors, parce qu'on a évoqué cette histoire familiale du côté maternel, on l'a évoqué aussi du côté paternel, mais ce pluriel-là est intriguant.
C'est parce que j'ai un père adoptif et un père biologique. Et en fait, à un moment donné, j'ai décidé de ne pas choisir. C'est-à-dire que mon père biologique s'appelait Mamadou Koulibaly, je l'ai connu un an et demi. Ça s'est très mal passé entre mes parents, il était violent, il est parti, il a été éloigné. Et j'ai fait des recherches par la suite, en fait, pour le retrouver une fois que j'étais adulte, avant moi-même d'être mère. Et j'ai été adoptée à l'âge de... Enfin, j'ai rencontré Amadou Doumbia, quand ma mère a rencontré Amadou Doumbia, et donc ma sœur et moi l'a rencontré en même temps, quand on avait 4... Quand moi j'avais 4 ans et Isabelle, elle avait 2 ans, qui nous a adoptés, légalement plus tard, hein, parce que ça prend du temps, puisqu'il fallait déchoir de ses droits paternels, Mamadou Koulibaly. Mais moi, je ne peux pas choisir, c'est-à-dire que mon identité, pendant très longtemps, j'avais du mal à dire, quand on me demandait d'où je venais, je disais, j'étais très floue, parce qu'en vérité, la question de l'identité, c'était plus lié à cette histoire de deux pères, c'était entre le Mali et la Côte d'Ivoire plutôt que entre la France et l'Afrique en fait en vérité. Et donc à un moment donné où j'ai assumé en fait de porter cette histoire-là qui est aussi une histoire familiale qui est quand même très très liée aussi à l'histoire coloniale en vérité puisque très nombreux. Alors mon père biologique était étudiant. Mes parents se sont rencontrés quand ma mère, alors étudiante à Caen, c'était la première qui faisait des études de sa famille, a rencontré cet homme dont j'ai appris plus tard, puisque ce n'est pas lui qui me l'a raconté, puisque quand j'ai retrouvé sa trace, il était déjà décédé. On me raconte qu'il a fait l'école des Blancs, c'est-à-dire que c'est un enfant de cultivateurs, de paysans colonisés. On dit qu'il était très intelligent et que les Blancs ont voulu qu'il aille à l'école. Donc, il a fait l'école des Blancs. Il se retrouve en France et ça se passe pas bien. Ça se passe pas bien, en fait, et il traîne. Alors, c'est des histoires que je peux imaginer, en fait, puisque j'ai rencontré des gens comme ça plus tard dans mon existence d'étudiante, moi-même. Le deuxième père, mon père adoptif, lui, est ouvrier. En fait, ils arrivent par des chemins différents. Ils se connaissaient, hein, ils se sont connus. Ils se connaissaient, ils étaient amis même. J'ai appris ça tard, qu'ils étaient amis, puisqu'en fait, dans la région de Rouen, Le Havre, il y avait peu de personnes qui parlaient la même langue. Tous les deux étaient des malinqués. Donc tous les deux étaient des malinqués. Et donc, en fait, l'un a hébergé l'autre. À héberger l'autre, mais ça, je l'ai su très, très tard. Et je crois que ma mère, je ne suis pas sûre qu'elle le savait aussi. Parce qu'elle était beaucoup plus jeune que tous les deux, d'ailleurs. Mon père biologique, il est né en 39, ma mère en 48. Donc c'est voilà, donc c'était beaucoup plus jeune. Et donc en fait c'est intéressant parce que j'ai en fait quand je pense justement à Ousmane Sembène, quand il écrit Le Docker noir, je sens qu'en fait ça correspond aussi à cette époque-là, ce milieu-là en fait, qui est mon milieu d'origine. C'est-à-dire ces gens qui arrivent à un moment où je crois qu'il y a beaucoup moins de racisme en France qu'aujourd'hui. Il y en a, mais il est différent. Je pense qu'il est beaucoup moins agressif, offensif. Je pense, même si le docker noir, c'est une histoire de racisme, hein, mais il me semble que c'est beaucoup moins prégnant, en fait, dans la société. C'est beaucoup moins violent. Et donc, en fait, cette période-là, j'ai l'impression qu'historiquement, elle est importante, en fait. Parce qu'elle constitue cette génération qui est la mienne.
Oui, avec Ousmane Sembène qui, lui, est sénégalais. Et dans cette évocation, Eva Doumbia, de ses origines, vous avez cité deux pays, hein, la Côte d'Ivoire, le Mali. Et après, dans la contextualisation, c'est vrai qu'il faudrait rappeler comme une évidence qu'il s'agit de colonies françaises. Mais vous évoquez aussi qu'ils sont malinqués. Alors, c'est intéressant de voir cela aussi parce que deux cultures différentes, mais cette autre lecture aussi de ce que peut être l'Afrique, ce ne sont pas simplement des pays avec des frontières.
Bah, ils sont du même pays, en fait. Ils sont de la même nation. C'est-à-dire que mon père, il était du nord, mon père Doumbia, était du nord de la Côte d'Ivoire. Donc en fait, c'est un bout qui a été retranché de l'empire malinké au moment de la colonisation. Donc en fait, en réalité, ils sont du même, ils appartiennent à la même nation. Ce qu'on appelle des Dioula en Côte d'Ivoire, ce sont des malinkés. En fait, on dit le mot Dioula signifie commerçant. Et mon père disait. En vérité, je ne suis pas un Dioula. Dioula, c'est. Alors, je suppose que c'est les Français qui ont décidé que c'était le nom d'un peuple, mais c'est aussi parce que souvent, socialement, les Malinkés transportaient des marchandises et étaient commerçants, donc on a décidé que c'était une ethnie. Mais en vérité, mon père se définissait comme Malinké.
Ouais, avec cette incompréhension de la part du colonisateur de ce qui se passe et puis les conséquences que cela peut avoir, notamment avec les frontières qui se dessinent. Mais il y a un personnage que je voudrais qu'on évoque ici parce que Eva Doumbia, nous parlons pour vous, et c'est passionnant, de cette identité qui se construit, mais c'est votre mère aussi dans cette histoire-là qui est exceptionnelle parce que nous sommes dans les années 1960, elle est étudiante à Caen et c'est quand même pas rien de construire quelque chose avec un étudiant noir.
Elle est on est en 68.
On voit l'ambiance.
On est en 68, elle prend le train pour Caen. Elle est étudiante. Alors, j'ai appris il n'y a pas longtemps qu'elle me pardonne si elle m'entend, qu'en vérité, elle foutait rien à la fac. Et qu'elle, en fait, elle était très, très, très serrée à la maison. Ils avaient le droit de rien faire. C'est vrai que mon grand-père et ma grand-mère étaient sévères. Alors, nous, on a moins vécu cette sévérité parce qu'on était les petits-enfants. Mais c'était très dur, en fait. Et donc, elle n'avait même pas le droit de recevoir une copine à la maison. Donc, quand elle débarque à la fac, et tous les étudiants le savent, cette chose-là, tout d'un coup, c'est la liberté. Même si on a été libre à la maison, de toute façon, la fac, c'est toujours... Donc, c'est la liberté. Elle sort, elle rencontre les Africains. Je ne sais absolument pas pourquoi. Elle est tout le temps avec eux. Elle est plutôt mignonne. Elle est même très mignonne. Elle est, je ne sais pas pourquoi, en fait. Des fois, on lui dit, parce qu'elle a eu 4 enfants. J'ai un frère qui est décédé aujourd'hui. Mais sur les 4, elle a 3 artistes. On ne sait absolument pas d'où ça vient. Et elle me disait, quand j'étais petite, je voulais vivre dans une roulotte. Alors effectivement, ma mère, c'est quelqu'un... alors peut-être je dis ça parce que c'est ma mère, mais je pense qu'on est plusieurs à le penser dans son environnement Gonfreville, que c'est quelqu'un d'exceptionnel, c'est quelqu'un de libre, fondamentalement libre. Et c'est quelqu'un... En fait, cette liberté n'est pas une liberté qui est liée aux années 70, etc. C'était pas... À proprement parler, ce qu'on appelle une intellectuelle, en fait, l'instituteur des années 70, c'est quelqu'un qui, c'est l'employé qui est au-dessus, en fait, des ouvriers. La culture littéraire que j'ai ne vient pas de ma maison. Ma mère, elle était abonnée au Grand Livre du Mois, enfin, ce type de littérature. Maintenant, elle lit beaucoup plus, c'est des choses beaucoup plus mieux, on va dire. Mais disons que, en fait, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est lié à sa personnalité. C'est vrai que mais dans notre famille, c'est toujours un mystère, en fait, de dire comment elle fait 1m50. Hein. Cette femme d'1m50 qui fait aujourd'hui, elle a 76 ans, qui doit faire encore aujourd'hui moins de 60 kilos, donc, même non, qui doit faire 50 kilos parce qu'elle fait 1m50 et elle a toujours été très menue en fait. Donc comment cette femme en fait arrive à braver un environnement familial, braver un environnement social parce que c'était pas simple, braver les ragots et en même temps rester, c'est quelqu'un, c'est... moi j'ai jamais entendu, je suis militante décoloniale, je dis toujours je n'ai jamais entendu ma mère dire un truc raciste. Mais même un truc, même quelque chose comme, vous savez, de ce qu'on appelle les micro-agressions, etc. J'ai jamais entendu ma mère dire ce qu'on appelle une dinguerie aujourd'hui. Jamais. Elle a toujours, même été très, fait attention à la dignité de l'autre, etc. Et c'est complètement inné. C'est ça qui est intéressant, c'est que je sais absolument pas d'où ça vient. Ça vient pas des lectures, ça vient pas d'un milieu social, c'est vraiment quelque chose, c'est quelqu'un qui a une personnalité étonnante. C'est quelqu'un qui ne s'est jamais arrêté de travailler, c'est-à-dire qu'elle a été à la retraite à la cinquantaine, ensuite elle a tenu le restaurant avec mon père, et aujourd'hui elle fait de la politique.
Et vous êtes militante décoloniale, dites-vous, ça veut dire quoi ?
Moi je considère que la colonisation n'a pas cessé, y compris ici, en fait, il y a des territoires qui sont considérés comme des territoires colonisés, mais aussi des territoires mentaux. C'est-à-dire qu'au départ, moi, j'arrive à la décolonisation par la décolonisation des imaginaires, où je comprends que dans mon milieu théâtral, j'y viens tard, hein, je subis des discriminations et j'essaie de comprendre, de détricoter d'où viennent ces discriminations. Et je fais partie des fondatrices d'un collectif qui s'appelle Décoloniser les arts. Et par la décolonisation des arts, j'arrive progressivement à détricoter d'où vient le racisme et d'où vient le racisme et d'où vient ce qui... En fait, je pars de mon expérience personnelle. C'est ce qui me fait souffrir en tant qu'individu. J'essaie de comprendre comment c'est systémique. C'était la même chose avec le patriarcat de mon père. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment... ce patriarcat qui m'a pesé, puisque moi j'étais en conflit permanent en fait avec mon père, ce patriarcat en fait j'ai compris, à partir du moment où j'ai compris qu'il était systémique et qu'il participait d'une histoire globale, j'ai réussi à m'en défaire.
Oui, parce que c'est bien cela hein, qui nous intéresse dans le cours de l'histoire, c'est mettre l'histoire au centre de la réflexion, mais pour comprendre des cheminements, et c'est ce que vous faites aussi, Eva Doumbia.
Les soldats allemands ont séparé les soldats français blancs des soldats d'Afrique noire. Les soldats noirs, regroupés, déshabillés, bras levés. Il leur a été ordonné de marcher en colonne, sur un chemin entre Chasselet et le village voisin, les Chères. Sur la route des Chères se trouvait le lieu-dit Vidsack. C'était un terrain vague, je crois. Les tirailleurs dits sénégalais y furent dispersés. Les soldats allemands leur ont intimé l'ordre de courir, puis les ont mitraillés. Comme on chasse le gibier. Avec leurs tanks, ils ont roulé sur les corps décédés. Avec leurs tanks, ils ont roulé sur les vivants.
Maïwenn Guizhou, dans le cours de l'histoire sur France Culture, qui nous lisait cet extrait de Chasselet et autres massacres. C'est un texte, Eva Doumbia, que vous publiez chez Actes Sud avec... Parce qu'il y a un second texte hein, qui suit, c'est le camp Philippe Maurice. Chasselet, qu'est-ce que Chasselet ? Qu'est-ce que ce lieu ?
C'est intéressant parce que finalement, Chasselet, ce n'est pas qu'un lieu. Chasselet, c'est aussi une mémoire ou une mémoire effacée ou une absence de mémoire. Alors, Chasselet, c'est un, Chasselet, c'est un village à 21 km au nord de Lyon où se trouve... un endroit qui s'appelle le Tata de Chasselet, qui est une nécropole en fait, qui est une nécropole militaire. Et cette nécropole militaire, elle est architecturellement très particulière, c'est-à-dire qu'elle est conçue sur le modèle des enceintes sacrées du Sahel, c'est-à-dire c'est rouge, avec une esthétique très sahélienne. Et ils sont enterrés 196 personnes, dont 188 tirailleurs dits sénégalais. Et c'est un lieu de mémoire, puisque en juin 1940, s'est déroulé à cet endroit-là le massacre dit de Chasselet. C'est un massacre peu connu en France. Et donc, moi, j'ai découvert cet endroit, d'abord virtuellement, parce que j'avais subi un accident grave. Et j'étais couchée, je suis restée couchée longtemps. Et je sais pas, en fait, j'avoue que je sais même pas, je me rappelle plus comment j'ai pris connaissance de cet endroit, mais c'est vrai que les premières images que j'ai vues, je les ai vues sur mon ordinateur. Et donc, ça a éveillé en moi pas mal de questions et ça a donné ce texte. Et en fait, c'est Chasselet autre massacre, puisque en fait, je suis allée loin dans les recherches. Je me suis déplacée. Et en fait, ça, c'est le point de départ d'un questionnement sur plein de choses. Le premier questionnement, enfin, la première chose, c'est la recherche historique, la recherche mémorielle, en fait, de tous les massacres qui ont été commis par les nazis au moment où ils descendaient, en fait, où ils sont descendus jusqu'à Lyon. Il y a eu beaucoup du côté dans le nord, en fait, autour d'Amiens, beaucoup dans la région de Lyon. En fait, chaque fois que les nazis croisaient la coloniale, ils ne respectaient absolument pas la Convention de Genève et ils massacraient les gens. Et en fait, alors évidemment, j'ai pas appris ça de rien. Hein. J'ai lu des livres, Armel Mabon, Johan Chapoutot, Julien Farguetas et d'autres, hein, pour ne citer qu'eux. Ça vient d'une autre histoire, en fait, qui commence en 1919, qui s'appelle La Honte Noire. En fait, c'est le moment où les troupes françaises occupent la Ruhr et la Rhénanie. Ça dure pendant plus de 10 ans. Et les troupes françaises sont des troupes coloniales, pour la plupart. Et on sait que les gens se rencontrent. Des enfants naissent. Et on va dire que l'institution allemande se sent humiliée par cette occupation. Et en fait, en 1937, des enfants sont nés. En 1937, Hitler fait stériliser parmi les autres anormaux, les métis. Et donc, il y avait une espèce de rejet, de haine du nègre, du noir, en fait, par les nazis qui étaient, alors on va dire pas... Non, en fait, on ne peut pas comparer, mais on ne peut pas comparer parce que c'est incomparable. Mais disons qu'était tout aussi forte que la haine du juif, en fait. Et donc, chaque fois que la coloniale arrivait, il est massacré. Et il déshumanisait. Ils interdisaient aussi, et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'ils déshumanisaient les soldats massacrés au point d'interdire aux villageois, parce que c'était souvent des villageois, aux Français de les enterrer. Et Chasselet, c'est une initiative de civils. En 1941, le préfet Marchiani décide de construire ce tata pour honorer cette mémoire. Évidemment que les villageois ont enterré auparavant et ont identifié les personnes qu'ils avaient fréquentées pendant quelques jours avant l'attaque allemande, les ont identifiées, les ont enterrées. D'ailleurs, dans tous les endroits où je suis allée, en fait, il y a eu les gens ont bravé l'interdiction d'enterrer, les ont enterrés, y compris à Rouen. Alors moi, ce qui était intéressant, c'est qu'on ne sait pas qui a enterré les gens. C'est-à-dire qu'il y a eu le massacre de la rue Billy-Aurel, aujourd'hui, on ne sait toujours pas. Et lorsque j'ai interrogé l'historien Jean-Louis Roussel sur cette, ce que je me dis, mais quand même, c'est étrange que partout on est allé où je suis allée. En fait, j'ai des témoignages, on sait qui a enterré. Qu'est-ce qui s'est passé à Rouen? Et lui me répond, on était déjà occupés, les gens étaient terrorisés. Donc en fait, ils ont fait en cachette. On suppose que c'est le sacristain et l'équipe de l'église, enfin les gens de l'église, mais on n'a aucune preuve.
Avec Chasselet, nous sommes près de Lyon.
Il a été construit en quelle année, ce tata sénégalais?
Je crois que c'est en 1942 qu'il a été inauguré, qu'il a été érigé par Jean Marchiani, malgré l'opposition des Allemands qui ne voulaient pas qu'ils aient une sépulture décente. Mm-hmm. Donc voilà, ils sont... Tata veut dire camp retranché, donc ils sont là. Et c'est un symbole aussi, et ça veut dire qu'ils sont à l'abri.
Vous y venez souvent, ici?
C'est-à-dire que je passe souvent en voiture, et si j'ai ma petite radio qui marche dans la voiture, je crois qu'à un kilomètre avant, je l'éteins. Et je la rallume un kilomètre après. Je passe pas une fois sans penser à eux.
Donc au centre flotte le drapeau
français. Alors au
centre,
il y a le mât, donc on est rassemblés toutes les fois qu'il y a le, qu'il y a le lever au drapeau. On entend, c'est le drapeau qui claque.
Il y a combien de stèles ici, Madame Russier?
Il y en a 183.
Là, il y a Moussa.
Moussa, vous voyez, 8e RTS, mort pour la France, le 19-6-40. Samba, Diagne, 25e, le même jour, bien sûr. Boukar, Foy, Amadou Diallo, Samapat, Diouk, un inconnu.
Encore un inconnu.
Oui. Ranou Tendré.
On dirait un nom malgache.
Oui.
Et pourtant, c'est écrit 25e régiment des tirailleurs.
Ah oui, RTS, oui. Mustapha, Ousmane, 19-6. Ah oui, c'est tout.
Un reportage de 2005 sur Chasselet et ce Tata. On vient d'entendre ici Florida Sadki, réalisatrice de documentaires, qui discutait avec Suzanne Russier, une habitante de Chasselet, qui, et on l'a entendu, est émue systématiquement en revenant sur ces lieux, avec une interrogation autour des noms. Et ça, vous, Eva Doumbia, ça vous interpelle aussi. Comment nommer les gens? Comment donner cette identité à ces gens qu'on a voulu invisibiliser, qui déjà étaient invisibilisés par ce qu'ils étaient eux-mêmes du temps de leur vivant et que les nazis ont voulu faire disparaître?
On ne sait pas grand-chose sur ces personnes. Alors, en fait, il y a quelques archives où on trouve des fiches militaires. On sait de qui ils sont nés. De qui ils sont nés. Où à peu près et comment ils sont morts, mais on ne sait rien entre, en fait. Ils n'ont pas d'autre identité que la date de leur décès, quasiment, en fait, de leur naissance et de leur décès. Et encore, les dates, elles sont imprécises. Les noms sont imprécis. Par exemple, dans l'ordre alphabétique, on a le prénom avant le nom. Il y a des noms dont je suppose, en fait, qu'ils sont mal orthographiés. C'est l'oralité, en fait. Qui change les choses. Et puis il y a aussi comment ils étaient interrogés, en fait. Donc il y a quelque chose qui est très imprécis. Et moi, ce que j'ai voulu faire, c'est leur donner une histoire. Et donc, en fait, je n'avais que la fiction. Donc j'ai imaginé quelque chose pour donner une identité, une histoire, une humanité à ces personnes. Alors évidemment, je ne peux pas donner une humanité à 188 personnes comme ça. Enfin, je ne suis pas partie comme ça. J'ai inventé une histoire où il y a un des tirailleurs et puis une autre personne, puisque c'est une autre personne qui serait son frère. Parce que ça m'intéressait aussi de parler de cette histoire, mais complètement invisibilisée, de la stérilisation des métis. Évidemment, ça me touche intimement, de la stérilisation des métis et du fait que donc j'ai imaginé que deux frères se rencontraient juste avant le massacre, l'un étant le fils d'une Allemande. Et ils ont le même père, qui est un tirailleur de la première. Mais en fait, c'est par la fiction, je pense, qu'on peut retrouver quelque chose qui permette de s'identifier, en fait, à ces personnes. Et puis, dans mon histoire, il y a des personnes qui ont existé, donc on sait très peu de choses. La mère de Clotilde Cochard, qui est une révérende mère, qui a été une héroïne. Et puis Henriette Morin, qui était pharmacienne. J'en ai pris connaissance par un film, le Paysage de Pierre, Tata, le Paysage de Pierre, qui est un film qui, de 1992, il y a encore des survivants. Enfin, les gens sont encore vivants, qui racontent comment ils ont vécu ça. Et ce qui m'avait frappé, en fait, parce que c'est la question sous-jacente, c'est quand même celle du racisme. C'est comment, en fait, ils en parlent. C'est-à-dire que ça soit dans cette histoire-là ou dans l'autre texte que je raconte sur les Black GIs.
Le camp Philip Morris.
En vérité, ça confirme l'intuition que j'ai que le racisme est une chose institutionnelle. C'est construit. C'est-à-dire que les gens, quand ils se rencontrent, ils se rencontrent. Alors, il peut y avoir des frottements. De la peur de l'autre, mais la rencontre se fait toujours. Et je pense que la peur, elle est constituée. Et de la même, en fait, on voit très bien avec l'histoire du nazisme, quand on lit autre document, moi, qui m'a beaucoup aidée à écrire, c'est Histoire d'un Allemand, Daphner, de Sébastien Hafner. Quand on lit ça, quand on lit ces textes-là, on s'aperçoit qu'en fait, les nazis construisent la terreur du juif. En fait, les gens ont peur des juifs. Ils ont peur des noirs, ils ont peur des juifs. Et c'est quelque chose qui est complètement construit de la même manière que je pense qu'on construit aujourd'hui. Et c'est pour ça que l'histoire m'intéresse, parce qu'elle résonne dans le présent, c'est qu'on construit aussi la peur du musulman. Elle est entièrement construite.
Vous la voyez construite, et effectivement, on sait très bien que nous sommes, j'allais dire les victimes, parce que quand nous parlons de racisme, on peut dire que nous en sommes les victimes, de toutes ces constructions sociales et d'un ordre du discours qui nous dépasse. Vous l'avez évoqué en parlant de votre maman, c'est que jamais elle a eu ces phrases maladroites qui, sans être méchantes et sans être racistes dans la conscience de celui qui les prononce, peuvent l'être vraiment. Pour le dire autrement, ça nous rattrape en fait. Et c'est ça qui est absolument terrible avec ce racisme institutionnel, comme vous dites, c'est que ça structure l'ensemble de notre univers et peut-être aussi de notre pensée.
Il y a une chose que j'ai trouvée intéressante, genre parce que je ne sais plus qui l'a prononcé et où je l'ai entendu, mais c'est un constat qui avait été fait, je crois que j'ai écouté ça à la radio. Un rappeur qui s'appelle Ismaël Edos, je crois, qui est de Lille, qui lors d'un débat disait, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que les endroits où il y a le moins de racisme, en fait, en France, c'est les endroits où les gens vivent ensemble. Les endroits où il y a le plus de racisme, c'est les endroits où les gens ne fréquentent pas et ne connaissent pas, en fait, l'autre. Et en fait, quand ils vivent ensemble, évidemment qu'ils se rencontrent et que les gens, en fait, ils ne sont pas... en se rencontrant, on partage. Alors, évidemment, je ne peux pas dire que c'est complètement angélique. Il y a des frottements, mais même dans ma famille, moi, mon grand-père, il disait certaines dingueries, comme on dit. Hein. Il disait des trucs racistes toute la journée. Mais ça n'empêchait pas d'aimer ses petits-enfants, d'aimer ses gendres, enfin, celui qu'il a connu, parce que le premier, il ne l'a pas connu, mais d'aimer son gendre. Mais ils étaient tout le temps en conflit, c'était violent. Mais en même temps, on se rencontre et c'est la vie, en fait. Et ça, moi, j'en veux terriblement. À nos dirigeants et aux médias, pardon, hein, même si je suis ici sur un des médias nationaux, j'en veux terriblement de détruire ça dans nos quotidiens, c'est-à-dire d'insinuer cette peur qui mène à la haine et qui mène à la catastrophe.
Avec malgré tout la volonté, je prêche pour France Culture, mais non, mais c'est vrai aussi de déconstruire cela. Mais avouons que c'est pas facile face à l'ampleur des réseaux sociaux. C'est très très dur.
Fait, moi, je peux me permettre de le dire puisque je suis une artiste. Donc, c'est face à l'ampleur de l'Empire Bolloré où en fait on découvre qu'il y a quand même quelque chose d'idéologique qui est ancien en fait. En vérité, c'est très ancien et ça pour moi c'est vraiment pour moi c'est le mal en fait. C'est vraiment le mal, la destruction, la volonté de domination par moment. Dans Autophagie, en fait, à un moment je me pose la question de la colonisation. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? En vérité, si c'est pour du sucre, mais c'est vraiment pour rien. Si c'est pour la domination, si c'est pour voir, c'est vraiment pour rien. Un jour, j'ai entendu dans un métro deux papis à Marseille dire « Mais qu'est-ce qu'ils font de tout cet argent? Ils vont pas manger trois poulets à la fois ?» Parce qu'effectivement, c'est totalement absurde. Et en vérité, pour moi, ça va dans le sens... Au-delà de la violence et du mal, il y a aussi la bêtise. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui va contre l'intérêt général et qui va donc forcément contre l'intérêt des individus.
Ce qui nécessite de lutter. Alors lutter de toutes les manières, ici sur France Culture, nous essayons de lutter. Mais vous aussi, Eva Doumbia, par le théâtre, c'est ça aussi, c'est une forme de lutte, vous l'avez dit, avec Chasselet et autres massacres. C'est peut-être apporter de la fiction là où l'histoire demeure muette, au sens où il y a eu la volonté d'effacer des individus. Il n'y a pas que ça. En choisissant ce thème, vous voulez le faire connaître. Parce que il y a cette main tendue, cette transmission de l'histoire du passé pour réfléchir toujours au présent.
Tout à fait. On ne peut pas, moi, quand je travaille... Là, actuellement, je suis en répétition. Évidemment, j'ai en tête ce qui se passe en Palestine. Évidemment, je pense... quand je lis le livre de Malice de Caranca, le chapitre où il y a une vieille dame qui raconte les bombardements, qui sont des choses que moi-même j'ai entendues, évidemment, je pense à ce qui se passe aujourd'hui en Palestine, à Gaza. Je pense à ce qui se passe au Liban. Et en fait, Évidemment, je suis. C'est cette connaissance du passé qui me ramène au présent, et c'est aussi ce présent qui me ramène au passé. C'est-à-dire que la lutte, elle est aussi dans la prise de conscience. Maintenant, je crois que ça ne suffit pas. Mais c'est dans la prise de conscience, dans la réflexion, dans l'esprit critique. J'ai l'impression que le théâtre et la littérature et les arts en général, en fait, ont aussi pour fonction de remettre de l'esprit critique et de la réflexion là où les réseaux sociaux, vous le dites, Twitter notamment. Twitter, c'est une entreprise d'abêtissement général, puisqu'on ne peut pas réfléchir avec aussi peu de signes, en fait. C'est les réseaux sociaux, l'Empire Bolloré, la télévision telle qu'elle est conçue aujourd'hui, ces débats où les gens, ils se coupent la parole mutuellement, ils disent n'importe quoi, sans vérification. En fait, moi, j'ai l'impression que nous, en tant qu'artistes, on a la fonction de lutter contre ça, c'est-à-dire de remettre du sens, de remettre de l'esprit critique, de remettre de l'intelligence et remettre même de la morale. Parce que la question, c'est aussi la question de la morale. C'est important de se redire, il est amoral de faire la guerre. Il est amoral de tuer des enfants. Et aujourd'hui, il a été amoral de séparer des gens. Moi, je me dis, si j'avais été un soldat blanc à ce moment-là, comment je vivrais avec le fait d'avoir été séparé de mon camarade noir, d'avoir eu la vie sauve et de savoir que lui, il a été tué. Comment je vis avec ça? En fait, toutes ces choses-là, en fait, aujourd'hui, le passé, de raconter des histoires, permettre de donner des clés pour le présent. Parce que ça met une distance, parce que ça s'est passé. Donc, on a une distance. Aujourd'hui, on est tellement dedans que forcément, on ne voit pas. Mais je crois qu'il faut vraiment... La lecture permet la distance. Enfin, je me répète, mais je peux pas dire mieux que ça.
Ah non, mais vous le dites bien. Et puis l'intelligence, c'est une arme redoutable face à la bêtise et aux horreurs du monde. Vous savez, nous avons des auditeurs, des auditrices absolument remarquables sur le cours de l'histoire de France Culture. Gonfreville, c'est là où vous avez grandi, hein, c'est ça?
Tout à fait.
Vous saviez qu'il y avait un quartier Gonfreville à Boisquet, la seconde ville de Côte d'Ivoire?
Oui.
C'est quand même un beau clin d'œil. À travers... Pourquoi Boisquet
Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Personne n'a pu me répondre.
Et ben voilà, on nous dit, c'est le nom de l'entreprise de fabrication de tissus qui a donné son nom à tout un quartier populaire de Boisquet. Merci vivement, Eva Doumbia, d'avoir, dans le cours de l'histoire, évoqué ce rapport intime à l'histoire, Chasselet et autres massacres, et suivi de Caen, de Philippe Maurice. C'est ce que vous publiez chez Actes Sud. Et puis, bien sûr, sur le site du cours de l'histoire, on va pouvoir retrouver les représentations de ces différentes pièces, parce que vous l'avez dit, hein, vous avez mis en scène, mais il n'y a pas que Chasselet, il y a aussi Autophagie. Merci vivement à vous.
Merci.
Nous avons commencé en Normandie, bah, nous terminons en Normandie.
1, 2, 3, 4. Quand vous prenez à l'espérance et que l'hiver fuit loin de nous, sous le beau ciel de notre France. Quand la nature est reverdie et l'hirondelle est de retour, j'ai mal au doigt, ma Normandie, c'est le pays qui m'a donné le jour.
Tiens, une vache. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Laurence Millet avec aujourd'hui la technique Noé Chaban, émission préparée par Maïwenn Guizhou, Jeanne Delecroix, Raphaël Laloum, Jeanne Copet, Chloé Rouillon. Le cours de l'histoire, écoutez à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.